Eric, bonjour, Michael Ponge.
Bonjour Marion, merci. 8h10 à Port-au-Prince. Les conséquences politiques des sanctions canadiennes à l'encontre des personnalités haïtiennes, jusqu'où peuvent-elles aller? On en parle ensemble aujourd'hui avant de partir pour le centre du Mexique et évoquer le combat des autochtones contre des géants industriels européens. De rendre hommage aussi à Pablo Milanés, voix de la révolution cubaine qui vient de s'éteindre. Et puis, bien sûr, on vous retrouvera comme chaque jour Benoît Ferrand pour le journal de la première, entre mer et justice aujourd'hui.
Nous reviendrons sur le chavirage tragique d'un bateau qui suivait l'arrivée du vainqueur de la route du Rhum à Pointe-à-Pitre. Le pilote a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous. Mais avant tout cela, une fois n'est pas coutume, on prend la direction du Qatar, le mondial de foot. Et cette grosse désillusion, cette claque même, les Argentins de Messi viennent de perdre leur premier match de groupe face à l'Arabie Saoudite. Cédric Deloivera, vous êtes avec nous en direct de Doha, exploit saoudien et énorme déconvenue pour l'Albi Céleste.
Ah oui, c'est un séisme, elle tombe de haut, cette équipe argentine battue 2-1 ici à Lusail. Rendez-vous compte, elle restait sur une série de 36 matchs sans défaite et elle s'est pourtant inclinée au pire moment. Elle avait bien démarré cette rencontre en marquant rapidement par l'inévitable Lionel Messi sur pénalty à la 10e minute. Derrière, les Argentins, confiants, trop confiants peut-être, ils ont déroulé leur jeu, marqué 3 fois, mais 3 buts refusés logiquement pour hors-jeu. Il y avait 1-0 à la mi-temps et honnêtement, il n'y avait pas trop de doute sur l'issue de ce match, tant les Saoudiens étaient dépassés. Mais alors ensuite, au retour des vestiaires, le match a basculé dans l'invraisemblable. En 5 minutes, avec 2 buts coup sur coup, dont un exceptionnel d'Al-Dawasari. Scénario catastrophe pour l'Argentine qui n'a pas réussi à revenir ensuite face à des Saoudiens solidaires. Défaite 2-1 donc, comme en 1990 face au Cameroun. L'Albi Céleste rate son entrée en Coupe du Monde. Ça ne l'avait pas empêché à l'époque d'arriver jusqu'en finale. Il faudra montrer bien mieux cette année pour briller au Qatar. Prochain match samedi face au Mexique.
Et on suivra ça avec vous, bien sûr, Cédric Deloivera, envoyé spécial de RFI au Qatar. Avant cela, aujourd'hui, dans ce même groupe C tout à l'heure, c'est le Mexique qui entre en lice face à la Pologne. C'est à 16h, temps universel.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On en parlait déjà hier ensemble, d'ailleurs on ne parle que de ça en Haïti. Depuis l'annonce tombée dimanche, les sanctions du Canada à l'encontre de plusieurs personnalités politiques haïtiennes pour leur soutien aux gangs qui terrorisent le pays. Parmi ces personnalités, l'ex-président Michel Martelly, deux anciens premiers ministres, d'ex et actuels sénateurs. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
Ça fait toujours couler beaucoup d'encre.
Ouais, le séisme des sanctions s'accompagne d'un tsunami politique, s'exclame aujourd'hui le Nouvelliste, puisqu'elle les mesures annoncées par le Canada, mais aussi par les États-Unis, dévastent la classe politique et particulièrement celle qui conduit les destinées du pays depuis l'arrivée au pouvoir en 2011 du PHTK, le parti haïtien Tête Calée, formation politique fondée par Michel Martelly. Le Canada et les États-Unis, poursuit Franz Duval, dessinent les contours d'un attelage qui réunit chefs de gang, ministres en exercice, élus, anciens élus, tous chefs au plus haut niveau dans le pays perdu qu'Haïti est devenu en moins de 10 ans sous leur gouvernance.
Et en cela, Stéphanie, le Nouvelliste voit en ces sanctions une sorte de punition collective.
Oui, la classe politique est décapitée à cause de son refus de condamner les gangs, d'appeler à la paix et de supporter la venue d'une force spécialisée armée. Ce n'est pas dit dans les préambules des sanctions, mais l'addition avant la facture est évidente, souligne l'éditorialiste. Franz Duval n'oublie pas de rappeler que cette même communauté internationale avait fermé les yeux sur la corruption des politiciens haïtiens et avait accepté les vols d'élections. Et voilà quelle étape pour ne pas avoir suivi les recommandations adressées depuis des mois au vrai chef.
Et dans tout ça, l'actuel Premier ministre, Ariel Henry, Stéphanie, pour le moment, il paraît tirer son épingle du jeu.
En effet, mais rien ne dit que le séisme des sanctions ne l'emportera pas lui aussi un matin, prévient le Nouvelliste, qui souligne que le problème de fond n'a pas disparu, à savoir aboutir à un consensus haïtien pour écrire l'avenir.
Merci Stéphanie. En ligne avec nous pour aller plus loin de Port-au-Prince, c'est Godson Pierre, le rédacteur en chef d'Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Michael.
Quelles sont les réactions parmi les personnalités visées que l'on a citées et plus généralement, Godson, au sein de la classe politique?
Bien, les réactions arrivent au fur et à mesure. C'est le rejet de la part des principaux concernés. Sur son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Laurent Lamothe condamne avec véhémence la légèreté avec laquelle cette accusation infamante est faite, une décision qui qualifie d'absurde et incohérente. Le parti Remet Haïti de l'ancien chef de gouvernement Jean-Henri Séan s'insurge également contre les sanctions, tout comme l'ancien président de la Chambre des députés Gary Baudot. Silence, cependant, du côté de l'ancien président Michel Martelly ou des alliés du pouvoir en place, alors qu'une partie de la classe politique ne cache pas sa honte du fait que les institutions haïtiennes aient attendu que les États-Unis et le Canada fassent ce qu'elles auraient dû faire elles-mêmes depuis longtemps. Ainsi s'exprime par exemple le président élu du mouvement de Montana, Fritz Jean.
Godson, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Avant cela, Stéphanie, l'idée d'une force internationale pour intervenir en Haïti, eh bien, venir à bout aussi des gangs, cette idée, Stéphanie, semble perdre un peu de son élan.
Oui, selon un responsable américain interrogé par le Miami Herald ce matin, il est peu probable qu'une résolution en ce sens soit votée pendant la période des fêtes de fin d'année au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington avait tenté de convaincre les Canadiens de prendre la tête d'une telle force, mais le Premier ministre a douché les attentes. Ce week-end, Justin Trudeau a réaffirmé qu'il n'y aura aucun engagement du Canada sans un consensus politique sur la question en Haïti.
Et on en parlera demain avec notre invité, ancien ambassadeur du Canada en Haïti. Pendant ce temps, malgré la situation sécuritaire dans le pays, en Haïti, eh bien, la République dominicaine voisine, elle renvoie manu militari les migrants haïtiens qui ont franchi la frontière. Godson, vous êtes toujours en ligne avec nous. Le gouvernement haïtien dénonce les traitements inhumains et honteux de ses compatriotes par Saint-Domingue.
Oui, des abus qui ternissent l'image de la République dominicaine à travers le monde et mettent en péril l'esprit de paix et d'harmonie devant guider les relations entre les deux pays. Se partageant l'île, critique le ministère des Affaires étrangères et des Cultes au nom du gouvernement en place. C'est une des rares fois que le gouvernement haïtien réagit à ce niveau suite à des violations de droits de migrants haïtiens en territoire voisin.
Et pour protester contre ces mauvais traitements, Godson, hier dans le nord-est d'Haïti, à la frontière dominicaine, là, des organisations locales ont protesté.
À Wanamette, elles ont procédé à la fermeture de la grille d'accès à la ville frontalière dominicaine de Dajabón. Elles ont dénoncé les mauvais traitements subis par les migrants haïtiens, sans nier cependant à la République dominicaine le droit de rapatrier des illégaux. Ce mouvement a causé la paralysie des activités, notamment celle du marché frontalier, où les échanges sont généralement intenses entre haïtiens et leurs voisins, ce qui a provoqué un important manque à gagné pour les commerçants dominicains.
Et il est encore un peu tôt hein, ce matin pour savoir si ce mouvement va se poursuivre ce mardi. Godson Pierre, rédacteur en chef d'Alter Presse, merci beaucoup. Stéphanie, toujours au sujet de migrants haïtiens, plusieurs dizaines d'entre eux viennent d'arriver à bord d'un voilier sur les Keys en Floride.
Ouais, leur nombre exact n'est pas connu, Michael. Un membre des gardes-côtes américains parle de plus de 230 personnes sur cette embarcation en mauvais état qui a lutté hier soir contre des vents violents et sur une mer déchaînée. Les migrants ont été secourus, parmi eux plusieurs enfants en bas âge, dont deux bébés, rapporte le Miami Herald.
RFI, Las Voces del Mundo.
Il est 9h18 à Caracas, le Venezuela à présent, où ont démarré hier de nouvelles négociations de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla colombienne de l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, Stéphanie.
Ouais, les deux parties ont convenu de ne pas partir de zéro, mais de reprendre là où les pourparlers de paix ont été interrompus en 2016 entre cette même guérilla et le gouvernement colombien de l'époque de Juan Manuel Santos, rapporte El País. Un document en 6 points existe déjà et doit servir de base pour les prochaines rencontres. La Vanguardia publie une photo de famille qui réunit les deux délégations, tout sourire. Le journal local de Bucaramanga parle de l'enthousiasme et du dialogue constructif entre les négociateurs du gouvernement et ceux de la guérilla. Danilo Rueda, haut commissaire à la paix du gouvernement, s'est voulu très optimiste après la rencontre. Écoutez.
La première réunion que nous avons tenue ce matin nous donne la certitude et la conviction profonde que nous atteindrons l'objectif qui nous unit. En quelques heures, nous avons commencé à trouver un terrain d'entente avec la délégation de paix de l'ELN.
De son côté, Pablo Beltrán, membre de la commission de paix de l'ELN, veut donner des garanties du sérieux de la démarche de la guérilla.
Ces pourparlers doivent être un instrument de changement, le changement que la société colombienne appelle de ses voeux. Concrètement, cela veut dire, premièrement, l'ELN ne signe pas ce qu'elle ne va pas respecter, deuxièmement, ce qu'elle signera, elle l'accomplira.
Dans un document officiel, les deux délégations ont confirmé que désormais, en Colombie, la construction de la paix est une politique d'État, rapporte de son côté El Espectador. Une nouvelle culture de la paix fondée sur des changements réels qui permettent de surmonter la violence politique et ses causes.
Stéphanie Schuller, merci beaucoup. Notre dossier du jour à présent, il nous emmène au Mexique où des communautés indigènes mènent bataille contre des géants de l'industrie européenne et notamment française, hein, comme par exemple Danone. Elles accusent ces entreprises de voler et de dégrader les ressources naturelles de leurs terres de par leur activité dans le centre du Mexique. Marceline Maranco López du Front des Peuples Défenseurs de la Terre et de l'Eau, une organisation qui lutte pour le droit des communautés autochtones dans les régions proches de Mexico, est en Europe en ce moment pour aller sur le sujet. Vous l'avez rencontré, Christophe Paget.
De tous les projets industriels menés sur ces terres indigènes, le PIM, le projet intégral Morelos, est le plus gigantesque. En construction depuis 2012, il doit regrouper deux aqueducs pour alimenter deux centrales thermoélectriques, une ligne à haute tension et surtout un gazoduc de 160 km. Marcelina Barranco López.
Le conduit du gazoduc passe par les flancs du volcan Popocatépetl, un volcan actif sur une zone sismique. C'est pratiquement une bombe à retardement qu'ils sont en train d'installer ici dans nos communautés. Ce gaz naturel est inodore. Imaginez le jour où il y a une fuite. Le gaz va se répandre. Il peut exploser et tuer toute notre population. Les entreprises qui se sont installées ici nous disent que non, que c'est moins dangereux qu'une bougie allumée dans notre maison. Non loin de là, dans une autre communauté, il y avait aussi une conduite de gaz, beaucoup plus petite. Il y a eu une explosion qui a fait des milliers de morts. Imaginez ce qui se passerait avec notre conduit, dont le diamètre fait la taille d'une personne. Pour le moment, on a bloqué le gazoduc. Ils ont fait venir l'armée qui nous a attaqués pour qu'ils puissent poser le tube. Mais il y a des communautés qui sont encore très résistantes. Il y a un tronçon où la conduite n'a pas pu être mise en place. Donc, il ne fonctionne pas pour le moment.
Pour le Front des Peuples Défenseurs de la Terre et de l'Eau, certaines entreprises veulent voler ou volent déjà leur eau. Le gouvernement mexicain leur oppose la légalité de la présence de ces entreprises.
C'est légal pour le gouvernement parce qu'il a toujours été corrompu. Pour eux, c'est légal, mais pour les populations, ça ne l'est pas. Parce qu'ils ne vivent pas ici, ils ne voient pas ce que les communautés subissent tous les jours. Ils donnent juste leurs ordres. Ils vendent des milliers d'hectares à des entreprises étrangères et ne leur imposent même pas de normes. Le pire, c'est qu'elles n'ont rien prévu pour décontaminer les eaux toxiques qu'elles rejettent. Ils vont tuer tout notre milieu naturel, tous nos champs qui sont en train de contaminer. L'eau, c'est le liquide vital. Une personne ne peut pas vivre sans eau.
Pendant des mois, les militants ont occupé une usine de l'entreprise Bonafont, une entreprise d'embouteillage d'eau, propriété de Danone, qu'ils accusent de voler le précieux liquide et assécher leur puits. Ils ont ensuite été délogés par les forces de sécurité. Plus largement, Marcelina Barranco López dénonce une violence exercée à l'encontre des militants.
Beaucoup ont été mis en prison pour des délits qu'ils n'ont jamais commis. Juan Flores et Jaime Dominguez ont été torturés dans leurs cellules, enfermés dans des prisons de haute sécurité, comme s'ils étaient pires que des délinquants. Notre camarade, l'avocat Juan Carlos Flores Solis, rien que ce mois-ci, son domicile a été perquisitionné 3 fois. Tout ça, c'est le gouvernement, complice des entreprises, parce qu'elles aussi payent pour qu'on nous fasse du mal, qu'on nous frappe. Nous avons peur. Ils ont envoyé des drones sur la maison de ma famille. Je pense qu'ils nous surveillent jour et nuit. Mon mari est toujours accusé, entre autres, d'avoir brûlé une camionnette, alors que c'est la garde nationale elle-même qui l'a brûlée.
La misma Guardia Nacional.
Marcelina Barranco López est aujourd'hui en Europe, au Parlement de Bruxelles, en France, en Suisse, en Allemagne et en Espagne, pour la plupart les pays d'origine des entreprises. Objectif ?
Voir tous ces responsables politiques et leur dire ce que nous subissons. J'espère que nous serons écoutés et qu'ils enverront des messages au gouvernement fédéral de Manuel López Obrador pour lui faire savoir tout ce que nous subissons et lui dire qu'ici nous sommes écoutés alors que là-bas, notre pays nous ignore et que ces responsables passent le message aussi à leurs entreprises et leur demandent comment se fait-il que chez nous, ils peuvent user de corruption alors qu'ici, je ne ne pense pas que ce soit le cas.
Marcelina Barranco López continue son périple en Europe. Elle est aujourd'hui en Allemagne. Vendredi dernier en France, elle s'est rendue avec d'autres sur le site de Danone pour remettre une pétition de plus de 40 000 signatures à l'entreprise, lui demandant de quitter le Mexique.
Dossier signé Christophe Paget. Enfin, pour terminer, la voix de la révolution cubaine qui s'est éteinte. Pablo Milanés, chanteur et compositeur cubain, est mort hier à 79 ans. Il avait commencé sa carrière dans les années 60, enregistré des dizaines d'albums et mis de nombreux poèmes en musique, comme nous le rappelle José Marinho.
Icône de la Nueva Trova, genre musical poétique qui engagé, surgit lors de la révolution cubaine de 1959, Pablo Milanés avait soutenu Fidel Castro. Admirateur de l'idéal révolutionnaire, il connaît des désillusions, notamment après son passage à 23 ans dans un camp de travail pour homosexuels, religieux et autres Cubains considérés comme déviants. Extrêmement déçu, il s'éloigne de la dictature cubaine tout en gardant un profond lien avec son peuple. Après les géantes manifestations de 2021, il critique le gouvernement et soutient les Cubains qui ont faim et soif de liberté. Pablo Milanés a signé des dizaines d'albums. Il a reçu 2 Grammy de la musique latine en 2006 et 2015. Lors d'un concert particulièrement émouvant à La Havane en juin, des milliers de spectateurs avaient repris en chœur ses plus grands succès comme Yolanda et Vivir. Après 3 ans sans venir à Cuba, Pablo Milanés avait renoué avec son public pour ce récital qui avait eu un goût d'adieu.
Voilà, Vivir, que l'on entend, titre emblématique de Pablo Milanés, mort à l'âge de 79 ans.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Et en Guadeloupe, le pilote du bateau qui a chaviré lors de l'arrivée du vainqueur de la Route du Rhum a été mis en examen.
Oui, pour homicide et blessures involontaires, il est désormais sous contrôle judiciaire avec interdiction de naviguer et de quitter le département. L'accident qui s'est produit au petit matin, mercredi dernier, à l'heure où Charles Caudrelier passait la ligne d'arrivée, a coûté la vie, rappelons-le, à 2 personnes. Peggy Robert.
200 bateaux suiveurs étaient sur le plan d'eau ce matin-là pour l'arrivée du vainqueur de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre.
Aucune des victimes, aucun des témoins présents sur le bateau ne fait état d'une collision avec une autre embarcation. Toutes ont confirmé des conditions de navigation qui ont été rendues difficiles par la forte affluence sur le plan d'eau. Cette affluence occasionnant ce qu'on appelle une houle mécanique. Le naufrage résulte donc dans un contexte de forte houle mécanique d'une brusque entrée d'eau dans l'habitacle par enfournement du bateau par l'avant qui n'a plus permis le contrôle de l'embarcation par son pilote, ce qui a entraîné un chavirage quasi immédiat.
L'enquête a établi que le navire n'était pas habilité à naviguer de nuit. Pour le reste, le nombre de passagers à bord correspondait bien au maximum autorisé. Les passagers invités étaient tous équipés d'un gilet de sauvetage, sauf les 2 membres d'équipage, ce qui n'était pas obligatoire. Pour poursuivre ces investigations, le service d'enquête de la brigade nautique sera renforcé par la section de recherche de la gendarmerie, service d'enquête judiciaire le plus haut placé.
Direction la Guyane avec un sujet tout à fait différent. Jean-Victor Castor qui veut mettre la question du foncier au cœur du débat politique ultramarin. Le député de la première circonscription organise jusqu'à vendredi un ralliement international, c'est son nom, sur l'accès et la maîtrise des terres avec la participation de délégations venues de la Guadeloupe, de la Martinique, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Corse. Véronique Nison.
La restitution des terres est un préalable au développement, à la cohésion, à l'identité de la Guyane. C'est ce qu'affirmait Jean-Victor Castor encore récemment sur nos antennes. Le thème lui est cher et il souhaite aujourd'hui le voir se concrétiser. Ce ralliement international doit permettre de débattre et de confronter les points de vue sur les expériences menées par les autres territoires et régions de France invitées. Mercredi, le débat portera plus particulièrement sur l'agriculture à Apatou et Roura. Jeudi, il sera question de l'aménagement du territoire à Rémire-Montjoly, avant de conclure sur la thématique de l'autonomie à Cayenne. Les débats tout au long de la semaine risquent d'être passionnés.
Affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Merci à Maxime Das qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques à retrouver sur RFI.fr et notre application RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous et à demain.